C'est l'histoire de trois personnalités de premier plan qu'on a tenté d'assassiner. Qui veut la mort de Louis XIV, Jean Jaurès et Henri IV ? Ces crimes révèlent une vérité terrifiante sur la société de leur temps, qu'ils aient atteint leur cible ou non. Empoisonneuses, folles en Christ ou nationalistes convaincus, les meurtriers ne sont souvent que les bras armés de forces bien plus obscures. Car la disparition de ces grands hommes sert les intérêts politiques de leurs opposants. Chaque épisode remonte le fil de l'histoire pour mettre à jour les véritables commanditaires de ces meurtres. Vous écoutez Les grands crimes de l'histoire, qui a tué Henri IV ? Première partie.
Le 14 mai 1610, Paris. À l'époque, le palais du Louvre sert de demeure au roi. Ce jour-là, Henri IV doit rendre visite à son ami et ministre des Finances, Sully.
Henri IV veut aller chez Sully, qui est malade. Donc à l'arsenal, donc il va sortir et il va en profiter également pour inspecter et voir les installations magnifiques qui ont été faites parce que sa femme, Marie de Médicis, a été couronnée la veille.
Mais il a au dernier moment des hésitations.
Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur de l'assassinat d'Henri IV.
Il dit « Mon Dieu, j'ai quelque chose là qui me trouble fort. » Il a reçu plusieurs messages. On lui a dit « Sire, ne sortez pas aujourd'hui. » Et finalement, Henri IV dit « Non, j'y vais. » On lui propose une escorte armée. Il dit « Non. »
À l'époque, il n'y avait pas ce gigantisme qui a maintenant entouré les chefs d'État.
Charles Pellegrini, ancien commissaire de police.
Quand vous voyez que Trump ou Poutine se déplacent avec des voitures blindées, 500 ou 600 personnes, une logistique effrayante, donc on est dans un autre monde.
À l'arsenal.
Lorsqu'il quitte le Louvre, le carrosse n'est donc escorté que d'une poignée de valets et de fantassins. Aux côtés du roi, quelques gentilshommes. Parmi eux, l'un des hommes forts du pays, le duc d'Épernon.
Il sort du Louvre dans son carrosse.
Hugues Dossy, historien et président de la société Henri IV.
Un carrosse dont les fenêtres peuvent être ouvertes, qui sont simplement recouvertes de mantelets de cuir. Et à peine sorti, Henri IV fait relever les mantelets de cuir.
Et il s'en va donc par la rue Saint-Honoré. Au carrefour de la rue du Trahoir, le cocher se retourne en disant « Où va-t-on ? » Et Henri IV dit « Tout droit, par le cimetière des Saints-Innocents. » Et on arrive donc dans une petite rue très étroite qui s'appelle la rue de la Ferronnerie.
Or, il se trouve que lorsque le carrosse royal emprunte la rue de la Ferronnerie, celle-ci est barrée par deux charrettes de marchands, une charrette qui transporte du vin, une charrette qui transporte du foin.
Alors que les valets s'agitent pour faire ranger les charrettes, Henri IV prend son mal en patience.
Une lettre est lue à Henri IV, qui avait oublié ses lunettes et qui ne pouvait lire lui-même. Et donc, leur attention est totalement distraite.
Donc à ce moment-là, il est vulnérable. Il est clairement vulnérable par l'étroitesse des rues, par le fait que la population vient le saluer, etc. Donc, s'il se passe quelque chose, il est vulnérable.
Et c'est à ce moment-là qu'un individu de grande taille, roux, de barbe,
prend appui sur la roue arrière-gauche du carrosse et frappe le roi à trois reprises.
C'est une attaque éclair, c'est une attaque imprévisible.
Jean-Paul Desprats, historien et auteur de Henri IV, roi de cœur.
C'est la stupéfaction.
Les gentilshommes qui accompagnent le roi se rendent compte qu'il est blessé immédiatement, parce que du sang s'échappe à gros bouillons de la bouche d'Henri IV.
C'est Épernon qui prend les choses en main.
François Pernot, historien et auteur de « Qui a vraiment tué Henri IV ?»
et donne l'ordre de ramener le carrosse le plus vite possible au Louvre.
Et pendant ce temps,
le criminel, donc, qui vient de surgir et d'attaquer le roi,
Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue,
reste là, couteau à la main, ensanglanté, comme figé, hébété.
Un des gentilshommes de la suite d'Henri IV se précipite l'épée à la main pour le tuer, et là, à ce moment-là, le duc d'Épernon l'interrompt dans son geste, et lui ordonne de ne pas tuer le meurtrier.
L'idée, c'était qu'il fallait le prendre vivant pour le faire parler et pour connaître les tenants et les aboutissants de tout ça.
On se saisit de l'assassin, on le conduit à l'hôtel de Retz qui est tout à côté, qui va servir de sorte de lieu de détention pendant 48 heures. On va l'interroger, il va donner son nom.
L'homme s'appelle François Ravaillac. Il a réussi à tuer le roi. Henri IV a succombé à ses blessures. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre.
La reine Mérénice est choquée lorsqu'elle apprend la mort du roi. Les témoignages rapportent qu'elle répétait « le roi est mort, le roi est mort ». Il y a une certaine panique qui saisit la capitale, les commerçants ferment leurs boutiques, les gens sont en pleurs, on a plusieurs témoignages qui montrent que des femmes se tiennent les cheveux. Enfin, il y a vraiment une atmosphère extrêmement, extrêmement affligée.
La mort d'Henri IV provoque un bouleversement, une émotion qui étreint tout le pays, puisque le roi, c'est le sommet, la pierre angulaire de la pyramide sociale. Et donc, quand vous enlevez cette pierre, tout risque de s'écrouler.
Tout risque de s'écrouler. D'autant qu'Henri IV n'est pas un roi comme les autres. Plusieurs siècles plus tard, il fait partie de ces rares monarques qui sont entrés dans la légende.
C'est un immense personnage, incroyablement attachant.
François Bayrou, auteur de Henri IV, le roi libre.
Parce qu'il était incroyablement sympathique. Il était incroyablement amical.
C'est vrai qu'il y a chez lui une spontanéité, une chaleur. Sa belle-sœur disait, c'est un homme à se faire aimer des pierres elles-mêmes.
Mais ce n'est qu'après sa mort qu'un mythe s'est constitué autour du bon roi Henri IV. L'homme qui a voulu que chaque Français se nourrisse d'une poule au pot le dimanche. Car à l'époque, Henri IV n'était pas un roi aimé. Loin de là. Certains le détestaient même au point d'en vouloir à sa vie.
Depuis déjà très longtemps, des présages, des prédictions annoncent la mort du roi, annoncent des catastrophes, annoncent une fin prochaine.
C'est le temps des sorcières, c'est le temps des magiciens. On plonge encore dans un certain Moyen-Âge.
Dans son entourage, on l'avertit. On l'avertit de possibles complots. On le met en garde contre un événement défavorable qui pourrait lui arriver. Et ça finit par l'atteindre. Et il finit par se méfier, par redouter éventuellement de mourir de mort violente.
Henri IV, ça fait partie de ces souverains contre lesquels il y a eu le plus, sans doute, de tentatives d'assassinat. Si on prend toutes les tentatives, y compris les plus originales ou les plus loufoques, c'est presque une vingtaine, 20, 21, 22 tentatives possibles. Donc, véritablement, c'est un mort en sursis.
Henri IV était bien conscient de ces menaces. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait consenti à ce que sa femme, l'Italienne Marie de Médicis, soit sacrée reine pour qu'elle puisse gouverner s'il devait mourir prématurément.
Henri IV a subi la pression de sa femme, qui voulait absolument être couronnée. On lui avait prédit que ce couronnement serait un malheur pour lui.
Les chroniques racontent qu'il a dit « on m'a dit que si je faisais quelque chose comme ça, j'allais mourir dans un carrosse ».
Les prédictions se sont accomplies. Le roi a été assassiné dans son carrosse au lendemain du couronnement de sa femme.
Henri IV a été victime de la haine qui le poursuivait depuis des années et des années.
La thèse originelle, c'est forcément un complot, c'est forcément un acte terroriste.
En 1610, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à la mort du roi. Beaucoup de gens qui lui en veulent, beaucoup de gens qui peuvent être à l'origine d'un complot. Ça, c'est incontestable.
Un complot, le mot est lâché. Il est donc urgent d'entendre François Ravaillac, de lui faire avouer ses motivations.
Il dit que Dieu lui parle.
Maître Franck Berton, avocat pénaliste.
Que Dieu lui a commandé ce geste fou de tuer le roi de France. Il n'a pas d'explication logique.
Dieu, C'est le mobile de Ravaillac. Pour bien le comprendre, il faut remonter plusieurs années en arrière et se souvenir du contexte de l'époque, quand le pays était en proie à de violentes divisions.
La France est déchirée par les guerres de religion qui opposent catholiques et protestants depuis 1562. Ce sont des guerres violentes, il y a de nombreux massacres, des massacres qui sont aussi bien perpétrés par des catholiques sur des protestants que par des protestants sur des catholiques. On se rappelle du massacre de la Saint-Barthélemy, évidemment.
La Saint-Barthélemy. En quelques jours d'août 1572, ce sont plusieurs milliers de protestants qui sont sauvagement assassinés par des catholiques, à Paris, puis à travers tout le pays.
Encore aujourd'hui, la Saint-Barthélemy, c'est l'événement le plus sanglant, le plus terrible que la France ait connu.
L'archéologie nous a montré, en examinant les squelettes qui sont le produit de ces massacres terribles qui vont avoir lieu pendant 40 ans, ça dure 40 ans. On voit des os qui sont complètement mâchés à l'épée. Et par exemple, les femmes, on les éventrait, et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enfant post-mortem, on enfonçait une corne de bouc dans la nature de la femme pour être sûr que rien ne sortirait du corps de la femme éventrée.
Henri IV a vécu ces guerres terribles. Depuis ses 6 ans jusqu'à ses 45 ans.
C'est un homme qui a vu tellement d'horreurs, a participé à tellement de batailles. Il dit lui-même, il n'est pas prince qui ait tué tant de gens de sa main. Il a été au centre des batailles, il y allait, à la différence de tous ses prédécesseurs qui restaient dans leur palais. Lui, c'était toujours le tout ou rien.
Durant ces longues guerres fratricides, un puissant parti catholique s'est formé. La Ligue.
C'est le ramassis de tous ceux qui se cristallisent sur les questions de dogme dans la religion, qui refusent toute évolution et qui veulent établir ici-bas le royaume de Dieu par des méthodes violentes. Donc la Ligue, ça peut être Daesh à notre époque, mais ça peut être aussi la frange la plus obscure du mariage pour tous.
À l'époque, le roi est considéré comme le père de ses sujets. Il est intouchable. Pourtant, dans sa toute-puissance, la Ligue instaure un nouveau courant de pensée.
Il y a toute une atmosphère dans laquelle les catholiques les plus intransigeants baignent à cette époque. Une atmosphère qui, finalement, permet de légitimer le meurtre du roi dans la mesure où il est considéré comme hostile à la volonté divine.
C'est la théorie du tyrannicide.
Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction antiterroriste.
On peut tuer le roi, le souverain, si c'est un tyran. Donc le régicide est légitime si le roi est un tyran.
Et justement, pour certains extrémistes, Henri IV est un tyran. Notamment parce qu'il a changé plusieurs fois de religion.
Henri IV est devenu roi de France le 2 août 1589. Il est alors protestant. Et donc c'est un protestant qui monte sur le trône de France. Or, les ligueurs refusent de reconnaître la légitimité de ce roi protestant. Et il faut à Henri IV reconquérir son royaume par la guerre. Et pendant 4 ans, de 1589 à 1593, Henri IV affronte militairement les catholiques ligueurs.
Des affrontements suivis de réconciliations. Durant des années, Henri IV n'a cessé d'osciller entre le protestantisme, sa religion de naissance, et le catholicisme pour contenter la grande majorité des Français.
Sa dernière conversion, celle de juillet 1593, c'est une conversion qui se fait en partie par pragmatisme, afin de réussir à mettre un terme aux guerres civiles qui déchirent la France.
Henri IV va dire « Bon, je veux bien redevenir catholique pour être roi, mais je ne laisserai pas tomber les protestants. »
Au cours de sa vie, Henri IV a changé 6 fois de religion, si bien qu'il passe pour une girouette spirituelle.
Tout cela soulève beaucoup de remous. Les protestants sont mécontents de la conversion du roi. Les catholiques jugent que cette conversion n'est pas sincère. Donc on voit les tensions qui subsistent en dépit de la bonne volonté de ce roi.
Enfin politicien, Henri IV tente malgré tout de rassembler les Français.
Ce qu'il va faire, c'est d'essayer de réunir sa droite paisible et sa gauche paisible, c'est-à-dire les protestants qui sont pour la paix des cœurs et les catholiques qui ne donnent pas dans la ligne.
Une tactique qui fonctionne. Henri IV parvient à ramener la paix dans le royaume. Et pour maintenir cette paix, il va encore plus loin.
Il fait l'édit de Nantes en 1598, qui est une incroyable décision juridique, qui dit pour la première fois, à partir de maintenant, en France, on va pouvoir avoir les mêmes droits en ayant une religion différente. C'est une décision qui est toujours révolutionnaire aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte à quel point les catholiques les plus intégristes sont profondément révoltés.
Et parmi ces catholiques profondément révoltés, il y a François Ravaillac, l'homme qui a assassiné le roi. Mais alors, qui est ce Ravaillac ?
Il s'avère que c'est quelqu'un qui n'est pas franchement aidé par la nature.
Maître Cathy Richard, avocate pénaliste.
Il est plutôt costaud, il est roux, d'un roux très intense, d'un roux foncé. Donc c'était quand même aussi une époque où on n'aimait pas forcément les roux. Il y avait un peu de diable derrière.
Quand il tue le roi, ce fils de greffier aux allures de diable vert a 32 ans. Il est né à Angoulême, une ville qui à l'époque est un concentré des tensions religieuses qui déchirent le pays.
Angoulême, c'est une citadelle catholique, juchée sur un promontoire, au milieu d'un plat pays protestant. Les oncles de François Ravaillac, qui étaient des chanoines de la cathédrale, lui avaient inculqué un catholicisme très profond, mais en même temps ardent et violemment hostile au protestantisme.
Ravaillac est donc issu d'une famille qu'on dirait aujourd'hui intégriste. Mais c'était aussi une famille tourmentée.
Son père, qui se fait renvoyer, se met à boire, il est de plus en plus violent. Sa mère finit par demander à se séparer, ce qui était quand même assez extraordinaire à l'époque. Il vit du coup avec sa mère dans une très grande pauvreté.
Ravaillac va devenir petit clerc, va faire des petits métiers, on dirait des petits boulots aujourd'hui.
Et puis très vite, il sera désœuvré dans la misère.
En quête de réconfort, François Ravaillac consacre désormais toute sa vie à Dieu. Et pour lui, Henri IV est un faux catholique, un tyran. Une conviction qui atteint son paroxysme en mai 1610, quand il apprend que le roi s'apprête à déclencher une nouvelle guerre.
Le roi de France s'apprête à partir en guerre de l'autre côté des frontières de la France, du côté du nord-est de la France, pour aller prêter main forte à des princes protestants de deux petits territoires du Rhin moyen, les duchés de Clèves et Juliers, qui sont vraiment deux confettis du Saint-Empire, mais qui sont des territoires extrêmement importants.
Deux territoires extrêmement importants, car ils forment à l'époque le dernier rempart contre le bloc catholique qui règne sur une grande partie de l'Europe. Un empire dirigé par le très puissant Albert de Habsbourg.
En ce mois de mai 1610, alors, les tensions montent et on part pour une guerre européenne, parce que chacun noue des alliances.
Pour éviter que les pays catholiques qui s'allient ne gagnent du terrain en Europe, Henri IV est déterminé. Il va venir en aide militairement à ces deux petits territoires protestants.
Henri IV a déjà regroupé trois armées, ce qui est énorme en fait pour l'époque, avec des effectifs extrêmement importants.
32 000 hommes de pied, comme on dit, c'est-à-dire des soldats d'infanterie, plus 5 000 cavaliers, plus 30 canons. C'est une armée gigantesque.
Il y a une guerre qui se prépare, qui est une guerre européenne, et l'Europe a peur.
L'annonce de cette guerre sème colère et panique.
Mais il y a pire encore. On soupçonne le roi de vouloir en réalité envahir l'Empire catholique pour un motif futile, une femme.
La vie politique d'Henri IV est intimement liée aux femmes qu'il a rencontrées.
Et c'est justement pour une femme qu'Henri IV est prêt à mettre tout le pays en danger.
La belle Charlotte de Montmorency.
Marilène Vincent, professeure d'histoire et autrice de Henri IV et les femmes.
Elle a 14 ans quand Henri la rencontre et lui-même en a 56.
Charlotte de Montmorency, qui est une beauté éblouissante, blonde, aux yeux bleus. Il la rencontre au moment où elle répète une scène d'un ballet. Il tombe éperdument amoureux de cette jeune beauté et il va être entraîné à faire toutes les folies. Veut absolument faire de cette jeune fille sa maîtresse. Alors, il est obligé, bien entendu, de la marier, parce qu'il ne peut pas prendre une simple jeune fille comme maîtresse, surtout de la très haute noblesse.
Charlotte de Montmorency est de la haute noblesse, et le roi, lui, est à l'époque déjà marié à Marie de Médicis. Une situation qui peut sembler inextricable, mais pas pour Henri IV. Car depuis toujours, le roi est volage. Il a même déjà échafaudé un plan imparable pour pouvoir jouir de ses maîtresses.
Comme il avait fait avec quelques-unes de ses maîtresses dans les 5 dernières années, il se dit qu'il faut la marier pour trouver ce qu'on appelait à l'époque, vous savez, il y a une pièce d'Alfred de Musset qui s'appelle Le Chandelier. Le Chandelier, c'est le faux amant qu'on prend pour se cacher d'une véritable relation. Donc il lui faut un chandelier, un homme qui soit un homme prétexte, et il a trouvé le chandelier idéal, c'est son neveu qui est homosexuel, le prince de Condé.
Et l'affaire est conclue. Le mariage prétexte entre Charlotte de Montmorency et le prince de Condé est célébré.
Dans les précédentes affaires, le mariage avait lieu et Henri IV consommait la première nuit d'amour du mariage, le mari restant à l'écart.
Mais cette fois-ci, voilà que Condé, ce neveu de figurant, se rebelle.
Il préfère, au demeurant, les damoiseaux aux damoiselles. Ceci dit, il n'aime pas le déshonneur, cet homme-là. Et donc, par conséquent, il ne va pas accepter que Charlotte couche avec Henri. Il va la sortir des griffes du lion.
C'est pas que quand Condé est sauté sur sa femme, mais Condé se dit « Je suis le premier prince du sang de France, pour qui on me prend, mon oncle ne fera pas ce qu'il veut. » Et donc il s'enfuit avec sa femme à Bruxelles, donc en pays ennemi, en pays, puisque Bruxelles, ça appartient aux Habsbourg.
Et là, c'est quelque chose d'assez incroyable qui se passe et tout est mêlé, les histoires d'amour et la politique de la France sont mêlées. Henri IV était capable de mettre le feu aux quatre coins de la chrétienté pour récupérer l'amour de sa vie.
Pour elle, il est prêt à déclarer la guerre européenne.
Veut récupérer cette princesse et veut en faire sa maîtresse, d'où le scandale, évidemment.
Un scandale insupportable. Le roi veut lancer une guerre terrible pour récupérer une jouvencelle. Et surtout, il veut combattre les catholiques au profit des protestants. C'est justement ce qui a attisé la haine de François Ravaillac et l'a convaincu de le stopper.
Il est dans cette idée du danger des protestants. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que pas de Facebook, hein, pas de réseaux sociaux, mais pourtant des rumeurs. C'est-à-dire que la Saint-Barthélemy a eu lieu et la rumeur revient régulièrement d'une vengeance des protestants qui vont venir tuer tous les catholiques. Donc tout cela fait fumer son cerveau un petit peu embrumé, il faut bien le dire.
Ravaillac, il est motivé par une sorte de puissance divine.
Maître Franck Berton, avocat pénaliste.
Alors moi, j'ai déjà rencontré ce genre de personnage dans des dossiers criminels, aux assises, finalement, psychiatriquement, et je dis bien psychiatriquement, sont atteints d'une pathologie.
Ravaillac a de toute évidence, par moment, des visions, des accès qui lui ordonnent en quelque sorte de commettre un acte violent contre le roi.
Plusieurs mois avant de céder à ses pulsions, Ravaillac a donc parcouru à pied les 480 km qui séparent Paris d'Angoulême pour convaincre Henri IV de protéger le catholicisme et de convertir tous les protestants.
À cœur vaillant, rien d'impossible, pourquoi ne pas aller voir directement le roi pour lui en parler ? Il va mettre 14 jours pour aller à Paris. Et quand il sera à Paris, il n'aura de cesse que de rencontrer le roi.
Il voulait lui parler, il voulait lui présenter ses doléances, il voulait lui dire qu'il était mécontent de la politique religieuse que conduisait Henri IV. Il a toujours été stoppé par les gardes du roi qui ont empêché qu'il ait accès au souverain.
Bafoué, frustré, sans le sou, François Ravaillac aurait erré dans la capitale durant des jours avant de décider de passer à l'acte.
Il va voler un couteau dans une taverne de la rue Saint-Honoré. Il fait réparer le manche, qui était un manche en corne de cerf, mais pour le rendre plus solide. Il est prêt, il est en train de... c'est sa préméditation, il est en train de mettre en œuvre son projet.
Lors de ses interrogatoires, Ravaillac répète inlassablement qu'il a agi au nom de Dieu et seul.
Au nom de Dieu !
Pourtant, de nombreux mystères entourent son geste.
Il reste longtemps à Paris. On ne sait pas trop le nombre de personnes qu'il rencontre, mais il erre à droite, à gauche. Qui voit-il ? Qu'entend-il ? Est-il poussé par d'autres qui voudraient lui faire commettre le crime ?
Car si personne ne croit à la thèse d'un Ravaillac ayant agi seul, c'est parce que la mort du roi a profité à beaucoup de monde. À commencer par son entourage très proche. Et en première ligne, il y a sa femme.
Marie de Médicis avait des intérêts à voir son mari mort. Il ne faut pas oublier que le 13, elle est sacrée reine, le 13 mai 1610. Le 14, elle est veuve. Et le 15, régente.
L'assassinat du roi a donc propulsé la reine au pouvoir en un temps record. Alors, hasard ou coïncidence ? Et si Marie de Médicis était dans le coup ? D'autant que le couple battait de l'aile.
Henri IV constamment trompait sa femme. Sa femme était jalouse. Il y avait des scènes entre eux. Et même parfois des scènes violentes, des cris.
Le lendemain du mariage, Henri IV mettra un premier coup de canif au contrat. Alors il la trompe avec une jeune fermière de passage, parce que Henri IV avait des goûts très hétéroclites, on va dire, de la comtesse à la paysanne, des jeunes femmes qui sentaient bon l'ail et le torchon, ce n'était pas non plus pour lui déplaire.
Coureur de jupons, gouailleur et vantard, Henri IV aime la bonne chère et ne s'en cache pas.
Marie de Médicis, lorsqu'elle a épousé Henri IV, savait tout à fait à quoi s'attendre. Elle savait très bien qu'il ne serait pas fidèle. Elle en souffrait, effectivement. Elle était jalouse de sa position. Elle craignait même que le roi la répudie.
Marie de Médicis, qui est une femme trompée, qui est une femme en colère, va passer peut-être sa colère en dépensant des sommes exorbitantes dans le jeu.
Marie de Médicis dilapide l'argent du royaume pendant que son mari exerce une pression fiscale colossale pour financer la guerre à venir, un cocktail explosif.
Marie de Médicis, elle, qui pourtant avait déjà un physique très lourd et tout ça, mais elle croulait sous les pierreries. Il y a rarement des reines de France qui ont eu tant de bijoux cousus sur leurs robes.
Une reine bling-bling, entourée de conseillers sulfureux et conspirateurs qu'elle a fait venir avec elle d'Italie. La plus influente, Léonora Galigai, amie d'enfance et sœur de lait de la reine, elle serait une médisante sorcière dotée d'étranges pouvoirs. Avec son mari, Concino Concini, ils forment aux côtés de la reine un duo des plus machiavéliques.
Concini est un aventurier de petite noblesse qui, à la cour, va profiter d'affaires juteuses. Il s'enrichit tant qu'il le peut.
Elle aime beaucoup l'argent, lui adore les honneurs. Et c'est un couple qui est mal vu, évidemment, des grands, et qui conseille Marie de Médicis.
Un couple intrigant et manipulateur qui est prêt à tout pour obtenir sa part du gâteau à la cour du roi.
Le roi s'est beaucoup méfié d'eux et l'influence va être grandissante à partir dans les 6 mois qui vont suivre ensuite la mort du roi.
Autrement dit, les Concini avaient un mobile. Et si c'était eux qui avaient soufflé à la reine le projet de faire assassiner le roi ?
L'entourage de Marie de Médicis, c'est très florentin. Il y a le poison, il y a les sorcières, les filtres. Et tout ça revient effectivement au galop dans l'entourage de Marie de Médicis.
Et donc, on l'a autopsié.
Yves Charpenel, magistrat à la cour de cassation.
Le roi Henri IV, d'abord, pour être sûr que c'était bien le couteau de Ravaillac qui l'avait tué et non pas pour masquer, en fait, un crime qui aurait été encore plus odieux.
À l'époque, 18 médecins et 13 chirurgiens se relaient pour disséquer la dépouille d'Henri IV. Finalement, ils évacuent l'hypothèse du poison et se concentrent sur les coups de couteau.
D'abord, Ravaillac a porté 2 coups successifs.
Docteur Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue.
Un coup qui était très superficiel, du côté gauche du corps de Henri IV. Ça a ripé tout simplement sur la masse musculaire. Ça a fait ce qu'on appelle une petite estafilade. Donc quelque chose de superficiel, ça a saignoté à peine. Celle-là, on l'évacue assez vite.
Les légistes s'intéressent alors au deuxième coup de couteau, la deuxième plaie.
On ne connaît pas la profondeur de la plaie. Ça n'a pas été mesuré par les praticiens. On sait qu'elle était large de 5-8 mm à peu près, l'épaisseur d'un petit doigt. Et l'arme a pénétré quasiment jusqu'à la garde, on imagine, parce qu'elle a causé des lésions extrêmement profondes et extrêmement sanglantes. Le poumon a été embroché, si on peut dire, par le couteau de Ravaillac. Et ensuite, il a touché l'artère pulmonaire. Et enfin, il a fini sa course au niveau d'une oreillette, l'oreillette gauche, du cœur, donc, d'Henri IV.
Pas de traces de poison, donc. Mais Henri IV n'avait aucune chance d'échapper à la mort.
Malgré tous les soins imaginables, il n'était pas possible de le sauver. La seule possibilité, éventuellement, ça serait qu'il ait été assassiné juste à l'entrée d'un hôpital, maintenant, mais absolument pas en 1610.
Marie de Médicis est donc mise hors de cause. Mais l'hypothèse d'un commanditaire qui aurait guidé le geste de Ravaillac persiste. Car la reine est loin d'être la seule à en vouloir sérieusement à Henri IV.
Vous venez d'écouter Les grands crimes de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les grands crimes de l'histoire est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Morgane. Cet épisode a été écrit et réalisé par Imane Gouali. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.